mon objectif pour moi, c'est que là, vous arrivez, il y a ceux qui connaissent déjà le libre, qui en ont une familiarité, qui se posent la question de savoir comment on fait des business models. Parmi ces gens-là, il y a ceux qui se disent le business, c'est le service. On ne vend pas le logiciel, mais on vend le service. Donc, il y a cette vague notion-là. On va essayer de préciser cette vague notion-là. Et puis, il y a ceux qui, ne connaissant pas du tout, se disent ben, on ne peut pas faire d'argent ou alors vraiment comment ça marche. Donc, en reprenant les choses très simplement, j'utilise le terme FLOSS, qui est un peu un terme qui synthétise à la fois le mouvement du logiciel libre, free software, le mouvement de l'open source. L'open source est né à la fin des années 90, justement en réaction à cette idée que le logiciel libre n'était qu'un mouvement idéologique. Éric Raymond, qui était un copain de Richard Stallman, a dit « ça suffit, il faut être crédible au niveau commercial ». Et ça a été une vraie rupture volontaire marquée d'un individu qui a dit « allons vers du business ». L'idéologie, ça a du bon, on n'est pas contre ça, mais ce qu'on veut maintenant, c'est dire que la technique est neutre, qu'on peut faire du business avec. Et ce terme « floss » regroupe tout ça. Donc c'est « free » comme discours libre, « libre » comme en français, parce que c'est pas ambigu du tout en français, ce qui est quand même pratique. Open, pour expliquer que c'est le modèle de gouvernance et qui parle aux gens. Open source, parce qu'on parle de code source, l'accès au code source, ouvrir sous le capot, ce qui se passe, c'est ce qu'on fait rarement, mais qu'on doit pouvoir faire. Et logiciel, parce qu'on est dans du logiciel, que ce soit des logiciels qu'on installe ou des logiciels qui sont installés sur des serveurs. Donc on a ces cinq notions-là, comprises dans FLOSS, et c'est un terme assez pratique, et c'est grâce à ça qu'on est des utilisateurs. Donc, les quatre libertés dont parlait Sébastien, je les remets ici pour mémoire. La liberté d'exécuter, la liberté de lire le logiciel, la liberté d'écrire et de modifier le logiciel, et la liberté de publier des versions modifiées. Toutes ces libertés-là sont complètement orthogonales au fait de faire de l'argent. On peut, quand on utilise un logiciel d'une licence libre, écrire une version modifiée et vendre cette version modifiée. Si je prends un exemple pas si lointain que ça, la Wikipédia utilise une licence libre au sens de logiciel libre, et vous pouvez demain ouvrir une maison d'édition qui sera chargée d'éditer les meilleurs articles de Wikipédia et de les revendre. C'est tout à fait accepté. Peu de gens le savent parce qu'on n'imagine pas du tout. On se dit travail volontaire, il doit y avoir des contraintes. Voilà. Mais ces quatre libertés, c'est ça qui fait qu'on est des utilisateurs et des développeurs heureux. On est d'abord heureux en tant que développeur de pouvoir aller bricoler avec ce qu'on veut. On a des Lego à l'infini. Et en tant qu'utilisateur, les développeurs pensent que tous les utilisateurs vont être heureux d'utiliser du logiciel libre. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, comme l'a signalé Anne-Laure avec sa fascination répulsion. Ici, je vous reprends les dates de manière synthétique, mais c'est pour distinguer trois flux. Il y a le flux des projets. Donc, quand on parle de GNU Linux, c'est des projets réels. Il y a du code, il y a des gens qui développent. Pareil, quand on parle de Wikipédia, il y a un projet réel. C'est des gens qui rajoutent du contenu. La deuxième ligne, c'est des institutions. La Free Software Foundation est née après le projet GNU, juste un an après. Le code est arrivé avant. Et c'est souvent ça dans l'idéologie du libre. On commence par coder, puis on se pose la question des institutions après. OSI, c'est Open Source Initiative, qui est né, comme je vous disais, à la fin des années 90, et Apache Foundation, juste dans la foulée, en 99. Tout en bas, on a les licences, et on voit qu'on a aussi un rythme. Je vous ai mis les plus importantes. La licence GPL, qui a été fondée par Richard Stallman et par la Free Software Foundation, qui couvre une majorité de logiciels libres aujourd'hui, et la licence BSD, qui couvre, ou dont les dérivés couvre, on va dire, l'autre moitié. C'est pas aussi simple que ça. Et le CC en bas, c'est les licences Creative Commons que les gens connaissent. Creative Commons, là, je vous ai mis ça dans le cadre des licences libres, mais les Creative Commons, c'est un panel de licences. Certaines sont libres, d'autres sont pas libres. Je vous expliquerai ça en détail. La grande notion à retenir, c'est la notion de copyleft. Quand on dit qu'un logiciel est copyleft, ou un contenu, dans le cas de Wikipédia, ça veut dire que toute réutilisation de ce contenu doit être sous la même licence. Donc, on a le droit de bricoler un logiciel, mais s'il est en GNU GPL, General Public License, on doit le redistribuer sous la même licence. Donc, c'est une forme de viralité. Ceux qui dénoncent les effets de cette licence disent viralité, que Stallman préfère éviter comme terme, mais c'est cette idée très simple. Il y a des licences libres qui ne sont pas copyleft, c'est-à-dire des licences qui disent aux utilisateurs « vous pouvez bricoler le code, vous faites ce que vous voulez, et même si vous voulez fermer le code, vous avez le droit ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle non copyleft et c'est le cas de la licence BSD. D'accord ? Pour retenir les choses très schématiquement, vous avez les gens à New York, c'est un peu comme le grand combat des deux endroits du rap. À New York, c'est les rappeurs un peu coincés. À l'Ouest, c'est les rappeurs hyper cool. Donc là, aux États-Unis, c'est pareil. Du côté de Boston, c'est les gens un peu coincés qui veulent construire une communauté et qui veulent imposer la viralité de la licence. Et à l'Ouest, c'est les gens hyper cool qui disent bah, « Non, nous, ce qu'on veut avec le libre, c'est imiter le domaine public. » Donc, on veut pouvoir permettre à chacun de faire complètement ce qu'il veut, y compris de reprendre du logiciel. Donc, quand vous utilisez vos Mac aujourd'hui, eh ben, c'est du logiciel libre qui a été réapproprié et fermé par Apple, sans que Apple ne recontribue du tout à la communauté. Donc ça, c'est ce qui se passe avec une licence non copyleft. Vous avez ici un logiciel libre, il se retrouve à l'intérieur de votre système Mac, mais je vous ai mis en rouge parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, on ne peut pas le vérifier. Et puis ensuite, derrière, ça ne se propage pas de logiciel non libre en logiciel non libre. Il n'y a pas une entreprise qui peut faire la copie de macOS. Là, on est dans le cas du copyleft classique, donc on a ici du code des utilisateurs, et puis de code en code, c'est la même licence qui se retrouve. Il y a une notion à bien aborder quand on parle de business model, c'est cette notion de distinction entre un copyleft, on dit parfois copyleft fort et copyleft faible. Donc le copyleft fort, c'est celui dont on vient de parler, et le copyleft faible, c'est celui qui admet des exceptions, qui dit, ok, là, il y a ce logiciel libre, vous avez le droit de l'associer à un logiciel propriétaire sans que ça contamine l'ensemble du logiciel propriétaire. Donc ça, c'est très important, c'est pas évident à comprendre au tout début. On se dit, mais comment gérer cette exception ? Ben, le L devant LGPL veut dire Lesser GNU Public License. Voilà. Mais ce dispositif-là, il faut l'avoir en tête pour comprendre comment certains modèles fonctionnent. Pas tous, ce n'est pas forcément le modèle dominant, mais l'idée c'était de quand même, au fur et à mesure que le projet GNU se construisait, au fur et à mesure que des gens créaient un système d'exploitation libre, eh bien, il y avait des librairies, on se disait ce serait bien qu'elles deviennent populaires auprès de tout le monde, pas seulement de la petite communauté qu'on construit, mais même auprès de gens qui sont des vendeurs propriétaires, il y avait un intérêt stratégique à ça, et c'est toujours aujourd'hui des histoires de stratégie. Je vous fais rapidement, mais je pense qu'on ne va pas trop s'arrêter là-dessus. Vous m'interrompez quand vous voulez si vous avez des questions. Hein. Si ça va trop vite, s'il y a trop d'acronymes que je ne dévoile pas, vous m'arrêtez. Là, c'est pour lutter contre quelques idées reçues. Mais encore une fois, c'est pour repasser une couche. Donc, les logiciels libres, ce ne sont pas des freeware. Ce ne sont pas des logiciels qu'on installe, qui sont gratuits, etc. C'est des logiciels dans lesquels on peut aller fouiller. On a tous les droits sur lire le code, exécuter, redistribuer, etc. Les logiciels libres ne sont pas libres de droit. Ça veut dire que quand on accepte d'utiliser un logiciel libre, on accepte aussi un contrat, comme quand on utilise du contenu de Wikipédia. Dans le cas de Wikipédia, l'accord contractuel, c'est une licence. Dans le cas de logiciel libre, c'est une licence aussi, mais il y a des auteurs, il y a du droit d'auteur qui s'applique. Et le droit d'auteur est essentiel pour protéger le libre. Les logiciels libres ne se développent pas comme Wikipédia. D'accord, Wikipédia, on arrive, on modifie une page et puis quelqu'un va remodifier notre modification. Et donc, c'est très, très ouvert. Et c'est une modération a posteriori. Je vous mets au défi d'aller modifier un logiciel et de pouvoir réellement le modifier et que quelqu'un ne surveille pas votre modification. C'est toujours vous rentrez dans la communauté, vous envoyez des modifications, vous valorisez votre travail et il est ensuite accepté. Donc, on est dans une sorte de modération a priori. Il faut bien distinguer logiciel contenu. Dans l'historique, vous avez vu que ça a remonté jusqu'en 77 pour la naissance de BSD, donc ce n'est pas un phénomène qui a émergé avec Internet. D'accord ? C'est un phénomène qui a été boosté par Internet, et notamment Linux a été essentiellement boosté par Internet en 91, mais c'est un phénomène qui existait avant, plus ou moins formalisé. Mais la Free Software Foundation, c'est 84, et à l'époque, je n'avais pas encore ni Lycos ni Caramel. Le logiciel libre, malgré mon ordinateur, ce n'est pas forcément du code et des choses compliquées. D'accord ? On a ici des représentants de la Document Foundation qui travaillent sur LibreOffice, que plein de gens utilisent, et LibreOffice, c'est un clone d'un environnement habituel pour travailler. Et le LibreOffice, ce n'est pas contre l'argent. Alors, quel est le rapport, LibreOffice, le logiciel libre. Oui, vous n'êtes pas contre non plus, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Quel est le rapport du logiciel libre à l'argent? Si on distingue vraiment deux grandes notions, le libre, ça a changé deux choses. Ça a changé la manière de développer du logiciel, la manière de faire du business. l'ancienne façon de développer du logiciel, c'est ça. On est tous dans des boîtes. Il y a une boîte, il y a des gens devant leur ordinateur, ils contribuent à un pôle commun. Et ça, c'est le fonctionnement d'une entreprise. Et c'est la fameuse lettre de Bill Gates qui dit « Mais arrêtez les hobbyistes de nous voler » et qui construit son modèle. Dans le modèle du libre, on a au moins deux grands types d'acteurs. On a les entreprises et les communautés. D'accord ? Quand on dit communauté, c'est au sens très vague. Quand on est un individu tout seul devant son ordinateur, si on contribue à quelque chose de manière bénévole, on est virtuellement partie d'une communauté. Mais on n'a pas besoin, il n'y a pas de rituel de passage, il n'y a pas de façon de s'habiller commune. C'est pas, voilà, il n'y a pas communauté de la barre ou des trucs comme ça. Donc c'est communautaire et compagnie, non-profit, for-profit, bénévole et des gens qui sont payés. Et vous voyez aussi qu'il y a au milieu une boîte qui est le logiciel, mais toujours cette possibilité pour n'importe qui, entreprise et communauté, de copier le logiciel et d'en faire une variante. Voilà. Donc on a un écosystème plus divers et plus complexe, mais avec une simple mixité bénévole, entreprise. Pareil pour le business. Avant, on est dans un business où il y a des éditeurs de logiciels, des gens qui font du service, des gens qui font du conseil, et on est dans une relation assez simple avec un client où un client achète un logiciel ou achète un service ou du conseil. Maintenant, on est dans un écosystème où le business est double. Un client peut, pour un même logiciel, se tourner vers des entreprises qui vont lui fournir du support, des modules payants ou du conseil payant, ou vers la communauté. Donc il y a forcément une question d'équilibre à trouver, et je pense que ça apparaîtra dans les interventions de la table. Je distingue aussi ensuite les ressources financières, donc ça c'est les rentrées d'argent, des revenus. Quand les ressources financières, c'est à la fois valable pour les associations, les non-profits et les entreprises, et les sources de revenus, c'est essentiellement valable pour les entreprises. En premier, pour les non-profits, c'est-à-dire Apache Foundation, Linux Foundation, tout ce qui est Foundation, on a les dons. Donc c'est un modèle de dons ou de subventions. Par exemple, Linus Torvalds, qui continue à développer le noyau Linux, est payé par la Linux Foundation. Et la Linux Foundation, c'est IBM, Red Hat, des grandes entreprises du libre qui se mettent en commun pour financer ça. On peut aussi vendre des t-shirts, des mugs, donc ça, c'est partie du rituel de passage, ou alors financer avec des campagnes de crowdfunding ou des investissements. Quand une grosse boîte donne beaucoup d'argent à une start-up, c'est des ressources financières, ce n'est pas encore des revenus, il n'y a pas de modèle d'affaires, mais beaucoup de start-up démarrent en disant on va faire du libre, comme le libre est un peu à la page, et ben là, il y a de l'investissement ou ce qu'on appelle les bounties, c'est quand les gens vont donner, c'est un peu comme le crowdfunding, mais là, on a Sylvain Lebon qui pourra nous en parler, c'est pour donner des ressources. Et il y a cet aspect-là qui est très important, ce que j'appelle tout l'investissement social caché, et ben, c'est vous, moi, c'est les gens qui donnent de leur temps pour développer. Parce que plus on donne de leur temps, plus on donne de la valeur au code, et cette valeur pour le code, et ben, c'est indirectement de la valeur pour les boîtes qui vont vendre du service dessus. Ensuite, pour les revenus, donc c'est un peu là les repères qu'on va essayer de garder en tête pendant les interventions pour voir si on peut se caler sur ces références-là. Il y a ce que j'appelle le modèle éditeur. Dans le modèle éditeur, on a un logiciel et on dit au client, voilà, vous choisissez votre licence. Soit vous l'avez sous licence libre, auquel cas vous êtes comme n'importe qui, on vous le laisse gratuitement, mais pour le même logiciel, on peut aussi vous le donner sous une licence propriétaire qui ne vous obligera pas à reverser vos contributions à la communauté. Donc on fait payer au client le droit pour lui de faire des ajouts dans son logiciel sans recontribuer à la communauté. Oui.
Excuse-moi Bastien, mais quand on est utilisateur de logiciels libres, on a le droit de faire des modifications secrètes dans son logiciel libre. La seule chose qu'on n'a pas le droit, c'est reverser les modifications qu'on a fait si on n'a pas envie. Quoi. Si on veut les garder secrètes, il n'y a jamais d'obligation de reverser ces modifications. Donc en fait, le dual licensing, c'est souvent les éditeurs qui disent on ne fera pas de support sur la version libre. Si vous voulez un support, il faut passer à la caisse et il faut payer et ça sera une version non libre. Désolé.
Ok. Non, mais tu fais bien de préciser. C'est fait pour ça. Le modèle open core, l'idée, c'est qu'on va avoir un noyau dur libre et qu'autour de ce noyau dur-là, on va vendre l'accès à des logiciels propriétaires. Alors, ce décalage, il est soit à un instant T, il y a le module, il y a le noyau dur libre et les modules propriétaires, soit on va décaler dans le temps. Par exemple, on va dire bah, notre version, pour l'instant, elle est propriétaire, mais dans 6 mois, elle sera libre. Et on va faire trouver son modèle d'affaires comme ça. Il y a ensuite ce que j'appelle les services. Dans les services, il y a d'une part les services techniques. Donc là, c'est une notion un peu floue que je ne maîtrise pas très bien, mais qui est à préciser. Ce que j'appelle un service technique, c'est par exemple les logiciels libres, ils sont entre guillemets, on ne les a jamais tous épars. On les installe toujours avec une distribution. Donc, que ce soit Debian, Ubuntu, ça c'est des noms que vous avez pu entendre. Depuis tout à l'heure, on parle de Red Hat, c'est une distribution. Eux, leur valeur ajoutée, c'est qu'ils développent du logiciel qui va construire un écosystème cohérent. Donc un écosystème pour aller mettre à jour, par exemple, une distribution. Donc ça, c'est ce que j'appelle du service technique. Ou alors, quand on a le réseau Red Hat Network, eux, ils offrent des services sur le cloud, entre guillemets, pour stocker des fichiers, ou Ubuntu fait ça aussi. Là, c'est aussi du service technique, parce que la boîte crée de la technique pour offrir du service. Et il y a le service humain, donc ça, c'est ce qu'on entend classiquement sur formation, installation, le boulot de service habituel, et ce dont vient de parler Laurent. Troisième source indirecte de revenus, donc publicité, c'est-à-dire si on a un produit libre et qu'il est exposé aux yeux de tous et que ça nous permet d'avoir des revenus, c'est la publicité. Qu'on fait la discussion autour de Firefox pour savoir si les 6 cases de Firefox doivent ou pas recevoir de la publicité, c'est en discussion pour les prochaines versions. Voilà. Et placement de produits, c'est HP par exemple qui va investir du temps et de l'énergie pour développer dans le noyau Linux le support pour les imprimantes, d'avoir les drivers pour les imprimantes qui vendent. Donc là, c'est ce que j'appelle le placement de produits, c'est un intérêt dans ce registre-là. Donc ça, voilà en résumé les 6 points. On va revenir dessus dans les discussions. Et ça, je vais passer rapidement. Mais gardez en tête toujours la question à se poser, c'est for profit ou non profit, qui est derrière. Donc Linux, c'est Linux Foundation, donc on est dans du non profit. Mozilla, Firefox, non profit. Donc avoir ces repères-là de cette première question à se poser. Et ensuite, pour chacune, on peut essayer pour chaque de se poser la question, quelle est la forme ici à l'intérieur de cette toile d'araignée. Donc là, c'est le squelette. Quelle est la forme des ressources financières et quelle est la forme pour les revenus. Donc on pourra avoir une entreprise qui a essentiellement ses revenus en faisant de la double licence et de l'open core, ou une entreprise qui ne fera que du service, ou une entreprise qui fera que de l'advertising.